Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadra, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Aujourd'hui, je donne la parole à Mathilde. Ça n'est pas parce qu'elle n'a qu'un an d'expérience en tant qu'infirmière en réanimation qu'elle a peu de choses à dire, bien au contraire. Mais connaissez-vous vraiment ceux que l'on surnomme parfois les cow-boys de la réanimation? Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Mathilde.
Coucou Marielle.
Je suis très contente de te recevoir à mon micro aujourd'hui. Tu vas nous raconter ta toute récente expérience et ta jeune expérience en tant qu'infirmière. Mais c'est pas parce que c'est récent qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Bien au contraire, tu as plein de choses à nous raconter. Donc pour démarrer cet épisode, je te laisse te présenter Mathilde.
Eh bien, je m'appelle Mathilde, j'ai 22 ans, bientôt 23 ans, dans quelques semaines. J'habite à Limoges, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est entre Paris et Toulouse.
Très bien.
Et je travaille au CHU de Limoges en réanimation depuis juillet 2021. Voilà, je vis avec mon compagnon et j'aime beaucoup pratiquer plusieurs sports, la gym, la course à pied, et je suis passionnée de cuisine.
Très voilà. Bien. Alors du coup, toute jeune infirmière, et tu sais quoi, il y a une question que j'aime bien poser, c'est voilà, qu'est-ce qui t'a amené à ce métier? Est-ce que c'est quelque chose qui était un rêve depuis toute petite? Est-ce que la vocation est arrivée un peu plus tard?
Alors en fait, depuis que j'ai l'âge de me souvenir, je crois que j'ai toujours voulu travailler dans le domaine de la santé dès toute petite. Je commençais déjà quand par exemple mes parents recevaient du monde à la maison, que ce soit la famille, les amis. Je leur faisais des pansements, j'aimais m'occuper d'eux, donc... Ça a commencé vraiment très tôt et puis quand il a fallu choisir une orientation, je me suis tout de suite tournée vers le domaine de la santé. Donc c'était plutôt une évidence pour moi.
C'est ça.
J'envisageais pas vraiment de faire autre chose.
Il y avait quelqu'un dans ta famille qui était déjà du milieu médical paramédical ou pas du tout?
Pas du tout.
C'est vrai, c'est rigolo.
Ouais, c'est très bizarre, je sais pas, ça m'est venu comme ça.
C'était une évidence.
Ouais.
Alors, raconte-nous du coup un peu le parcours d'études. Au lycée, tu suis une filière générale?
Alors, au lycée, je suis plutôt une filière classique. Sur un bac économique et social, je ne suis pas sûre que ça existe encore aujourd'hui sous ce nom-là. Et puis, arrivée en terminale, je m'inscris au concours parce que c'était encore les concours.
C'est vrai.
J'en passe deux et j'en ai aucun. Donc, un petit peu la douche froide. Et j'avais deux possibilités, c'était soit de faire une préparation au concours, ce qui ne m'intéressait pas trop, ou me tourner sur la première année de médecine. Donc j'ai quand même tenté la première année de médecine. Je me suis dit, bon, quitte à travailler dans le domaine de la santé, peut-être se donner une chance et voir le côté médical de la chose. Bon, c'était une année compliquée, qui s'est quand même très bien passée, mais ça ne se rapprochait pas vraiment de ce que je voulais faire. Il me manquait vraiment du relationnel, de la technique, du concret. Donc j'ai décidé à la fin de cette première année de repasser les concours et je les ai eus enfin.
Bon, donc, super.
Je suis rentrée à l'IFSI.
C'est vrai que cette école, cette prépa dont tu parlais pour préparer les concours, moi c'est une année que j'ai suivie. Si on peut expliquer un petit peu aux gens, c'est vraiment une année de préparation au concours. On se prépare à l'examen du concours et on n'aborde pas ou tellement peu ce qui va se faire derrière pendant les études. Donc c'est une année dédiée vraiment... Alors c'est pas du tout une année de perdu, c'est pas ce que je veux dire, mais je comprends aussi l'envie de vouloir mettre un pied dans quelque chose d'un peu plus concret dès le départ, d'où ton souhait de faire une année de médecine. Bon alors du coup, tout est bien qui finit bien.
Oui.
Les concours sont passés, les résultats sont obtenus et ça y est, t'es dans le grand bain.
Et ça y est, en plus j'obtiens l'école de mon choix, je voulais l'école de la Croix-Rouge sur Limoges parce qu'ils ont des projets un petit peu plus poussés en termes de stage à l'international, donc voilà,
c'est vrai.
C'est parti.
C'est vrai, c'est une école que j'avais passé le concours à Lyon aussi, et il y a quand même cette visée aussi humanitaire, etc., qui est quand même un peu plus poussée. Bon, bah génial, alors là on est en quelle année du coup pour cette première année?
En quelle année on est? On est en 2018.
Ah ouais, c'est tout récent.
Oui. Je suis un bébé infirmier, c'est comme ça que je me présente généralement.
Bah ouais, ah bah écoute, il faut bien démarrer par quelque part. Et alors, comment se déroule ce début de formation pour toi?
Eh ben écoute, ça se déroule plutôt bien. Franchement, j'arrive dans une promo qui est top. J'ai des formateurs à l'école qui sont top aussi. très vite, le premier stage arrive. Hein, on est très vite jeté dans le grand bain dès le mois d'octobre. Premier stage en EHPAD. Donc, ma foi, pour découvrir le métier et puis apprendre les bases, c'était très bien. Et j'ai eu la chance de tomber sur des infirmiers et infirmières passionnés qui avaient l'envie de transmettre. Donc, ça se passe très bien. Franchement, je suis ravie de mon choix et je ne remets pas du tout en doute ce choix d'intégrer l'école d'infirmière. Donc.
Ouais, tu te sens tout de suite à ta place et au bon endroit.
Oh, ah, complètement. Génial. Franchement, c'était parfait.
C'est vrai que les stages démarrent très très vite. Ça, c'est quelque chose que les gens ignorent peut-être. Mais on démarre l'école en septembre et très rapidement, on arrive pour ce premier stage. Alors, qui n'est pas un stage d'observation. Hein, on nous demande déjà de se comporter comme un soignant. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer pendant la première année d'études on nous dit souvent qu'on apprend tout d'abord le métier d'aide-soignant. Donc, les soins de confort, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe?
Alors, c'est vrai que le premier stage, en général, on passe quand même quelques jours, voire quelques semaines avec les aides-soignants, parce qu'il faut savoir quand même que le rôle d'aide-soignant, c'est le rôle propre de l'infirmier, donc il ne faut pas le perdre de vue. Donc, en général, on nous apprend à prendre soin du patient, à être beaucoup dans l'observation pour voir comment est le patient, que ce soit au niveau de son état cutané, au niveau de son hygiène, au niveau de sa santé psychologique, mentale. Donc, on va surtout se tourner sur des soins de confort, de nursing. On va apprendre à faire une toilette à un patient, parce que c'est pas forcément évident. Hein. On se rend pas forcément compte au début, mais il faut se lancer. Et puis, on va apprendre petit à petit donc les constantes, tout ce qui va être la fréquence cardiaque, la saturation d'oxygène. Enfin, voilà, on va commencer sur des petites choses comme ça. Et quand on va être un petit peu plus à l'aise, on va suivre un infirmier pour commencer à apprendre les premiers soins infirmiers, hein, la première prise de sang, les administrations de médicaments.
Bon, alors, ce stage en EHPAD se termine. Et comment se déroule la suite du parcours? Moi, j'aime bien savoir, tu vois, s'il y a un stage qui t'a marqué ou un module, tu vois, que t'as étudié, qui t'a vraiment, vraiment passionné.
La suite de la première année se déroule plutôt bien, bon, que ce soit au niveau des cours ou des stages, parce que les cours, la première année de médecine m'a quand même énormément aidée sur l'apprentissage en biologie fondamentale. Donc, ça se passe très bien au niveau des cours et au niveau des stages. Après, j'enchaîne avec un stage en psychiatrie. Ma foi, il est fait. C'est pas un domaine qui m'intéressait particulièrement. Et puis, dernier stage en crèche. Donc, première année, on va dire que j'ai fait tous les stages qui m'intéressaient le moins, mais qui m'ont permis d'apprendre les bases et d'arriver sereinement en deuxième année.
Ouais, c'est assez disparate du coup, un peu de santé publique, un peu de psychiatrie, un peu de gériatrie. Bon, l'intérêt des stages aussi, c'est de bien sûr trouver un domaine qui nous plaît, mais aussi, moi je trouve que c'est bien aussi de passer par des endroits avec lesquels on accroche moins. Ça permet de faire un tri assez vite et de savoir ce qu'on a envie de faire plus tard.
Voilà, c'est ça, c'était fait, c'était intéressant, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui ont eu à cœur aussi de me transmettre leur amour du métier et qui avaient vraiment la passion de transmettre aussi leurs connaissances. Donc, c'était top. J'ai quand même passé des super stages. Mais il me tardait quand même d'arriver un peu plus dans les soins aigus. Donc, tout de suite, à la fin de la première année, pour ceux qui ne savent pas, on obtient l'équivalent aide-soignant. Donc, j'ai travaillé pendant 2 mois en soins intensifs dans une clinique privée de ma région. Et là, la révélation.
Ah, c'est comme ça que tu découvres ces services-là. D'accord.
Oui. Ouais, j'ai eu la chance de postuler dans la clinique pas très loin de chez moi et tout de suite, ils m'ont proposé un poste de remplacement pour les 2 mois d'été en soins intensifs. Donc, j'étais un petit peu effrayée d'atterrir là-dedans avec quasiment pas de connaissances. Mais au final, encore une fois, je suis tombée sur une équipe extraordinaire qui m'a tout appris. Et puis à la fin de ces 2 mois, j'ai pu être autonome sur la prise en charge des patients. Donc
Alors du coup, la deuxième année démarre et tu te dis, bon, là, j'ai découvert un secteur qui quand même me plaît pas mal.
Exactement.
Et est-ce que tu avais la possibilité de parler, alors moi c'était mon cas dans mon école, je ne sais pas si c'est possible ailleurs, mais de parler à la ou au responsable des stages pour essayer d'orienter un petit peu les stages qui allaient venir?
Complètement.
Ah,
donc j'en ai parlé et le premier stage de deuxième année c'était du SSR, de la rééducation des soins de suite de convalescence qui était très bien et ensuite deuxième stage les soins intensifs de neurochirurgie.
Parfait.
Et là, grosse révélation aussi, je me suis dit, ah, mais c'est extraordinaire, enfin, on travaille avec peu de patients, on les connaît par cœur, on a des connaissances qui sont pointues. Enfin, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, je pourrais jamais faire de soins conventionnels. Tout de suite, en fait, ça s'est présenté comme une évidence. Je pouvais pas faire de soins conventionnels, c'était pas possible.
Génial. Et puis ces stages, ils durent une dizaine de semaines, si je dis pas de bêtises.
Alors, c'était 5 semaines. Les stages qui sont un petit peu plus longs, ça se passe surtout sur la 3e année.
Ah d'accord, ça se rallonge un petit peu. Donc en 5 semaines, tu arrives quand même à découvrir le service. Comment ça se passe?
Ah ben, c'était vraiment chouette. Alors après, la neurochirurgie, c'est quand même quelque chose qui est compliqué, qui est très, très aigu, très pointu. Mais encore une fois, les équipes étaient top, elles m'ont tout expliqué. J'ai pu aller au bloc opératoire, assister à une intervention de neurochir. Vraiment, toutes les étoiles étaient alignées et...
Oh, le rêve, génial. Qu'est-ce que tu ressens dans ces services? Est-ce que pour toi, c'est la vision du métier que tu avais? Qu'est-ce qui fait que tu t'y sens si bien?
Alors, je m'y sens bien déjà parce qu'on a peu de patients et que on les connaît de A à Z. On connaît leur famille, on connaît leur histoire de vie, on connaît leurs antécédents. On a vraiment une prise en charge qui est globale. On a le temps avec les patients. Alors, c'est quand même un petit peu moins vrai aujourd'hui parce que, on connaît tous le contexte de l'hôpital, mais on arrive quand même à avoir un peu plus de temps avec nos patients. Et ils sont scopés aussi, donc ça veut dire qu'on suit en permanence leurs paramètres vitaux. C'est quand même très confortable, mais ça nous permet aussi de faire les liens, de comprendre ce qui se passe quand on administre des traitements, quand on surveille nos patients. Donc, on travaille quand même avec un confort incroyable dans ces services-là. C'est des pathologies qui sont compliquées, aiguës, donc il y a un côté intellectuel qui est quand même très intéressant, on se pose tout le temps des questions, il n'y a pas de routine, les patients changent souvent, donc ça nous permet de voir énormément de choses et c'est ça qui fait que j'ai tout de suite accroché.
Donc là, tu es en milieu de deuxième année et tu t'es dit, je commence à toucher du doigt ce qui me plairait bien pour ma carrière professionnelle. Et comment poursuivre tes études, du coup, à partir de ce moment-là?
Donc, la deuxième année se poursuit et pareil, arrive l'été, entre la deuxième et la troisième année, je repostule dans cette clinique et ils me proposent de faire 2 mois aux urgences.
Génial.
Je trouve qu'en complément de la formation, d'avoir travaillé en tant qu'aide-soignante les étés, ça m'a aidée à grandir et surtout à affirmer un petit peu ma posture professionnelle, à pouvoir me positionner par rapport aux soignants, aux médecins. Donc, je fais ces 2 mois d'urgence qui étaient géniales. Et là, c'était pareil. Je me suis dit, ce sera des soins aigus, donc soit des urgences, soit des soins intensifs, ou peut-être la réanimation. Je commençais à y penser doucement, mais... Ça restait très effrayant pour moi encore.
Oh, c'est sûr. Mais bravo d'avoir travaillé les 2 mois l'été, parce que il faut le dire, c'est quand même un rythme déjà le reste de l'année qui est très dense, entre l'alternance, les stages, les cours, etc. D'avoir la volonté de remettre un pied à l'hôpital l'été et d'y retravailler 2 mois déjà. Bravo pour ça. Alors, donc, tu démarres la 3e année en te disant, super, je commence à faire à avoir des super terrains de stage et à découvrir des chouettes services. Et comment ça se déroule après?
Alors, après, en 3e année, pareil, j'ai eu des super stages. J'ai fait de la médecine polyvalente un petit peu dans la campagne, mais c'était génial parce qu'on avait un public qui était quand même assez varié. Ensuite, j'ai fait de l'hémodialyse. Donc, c'était très intéressant aussi. Et j'ai terminé par 10 semaines de soins intensifs en cardiologie.
Ah, génial.
10 semaines. Et en fait, je me suis dit, j'ai fait de la neurochirurgie, j'ai fait de la dialyse, j'ai fait des soins intensifs de cardiologie. J'ai quand même des connaissances sur les grandes fonctions du corps humain. Au final, la réanimation, ça viendrait un petit peu compléter tout ça.
C'est sûr.
Donc, la 3e année se passe très bien, les partiels se déroulent très bien aussi, et puis très vite, dès le mois de janvier-février, on commence à nous parler de la suite. Donc, j'envoie ma candidature au CHU de ma région, je passe l'entretien, et ils nous demandent de faire des vœux. Donc, je reste quand même en première position sur les urgences, qui est un domaine que je connais un petit peu plus, et en deuxième choix, je leur dis la réanimation. Les semaines passent et ils finissent par m'appeler pour me dire « vous êtes prise en réanimation ».
Ah, génial. Et quand tu fais ces vœux, on te fait pas de réflexion, je parle parce que moi je suis passée par là. On te dit pas, oh non, la réanimation pour une jeune diplômée, c'est pas quelque chose qu'on va trop favoriser. On te laisse la porte ouverte.
Pas du tout, on me laisse la porte ouverte et
Ah,
en
génial.
fait ils ont fait un gros recrutement cette année-là en réanimation parce qu'il manquait énormément de personnel. Donc voilà, destin ou pas destin, je ne sais pas, mais ils me prennent directement en réanimation sans problème. Je crois que j'ai eu la réponse au mois d'avril, quelque chose comme ça, donc il me restait encore un stage.
Ouais, et puis pour du coup une prise de poste au tout début de l'été alors.
Ah, complètement. Le diplôme, c'était de mémoire le 15 juillet, le 15 ou le 16 juillet, et le lundi suivant, ça y est, c'était parti.
Alors, il faut qu'on en parle de ces services de réanimation qui sont qui peuvent être très impressionnants. Je te disais en off au début, dans ton mail, tu m'as écrit. Je travaille en réanimation polyvalente et je fais partie de ceux qu'on surnomme les cow-boys au sein de mon hôpital. C'est une expression alors tu vois, que tu as employée, que j'ai déjà beaucoup entendue. Ce sont des services qui peuvent être très effrayants. Est-ce que tu peux nous dire dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là? L'envie de te dire, donc, je dompte mon stress ou pas, hein, peut-être que tu n'en avais pas. Je dompte mon appréhension pour aller dans un service comme ça. Voilà. Dans quel état d'esprit tu es et qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui hésitent, voilà, à faire la même chose que toi?
Alors, parlons du stress. Ce lundi matin, quand on m'a donné rendez-vous à 8h devant les portes de la réanimation, j'étais vraiment très très stressée et je me suis dit, mince, est-ce que t'as fait le bon choix pour commencer quand même, c'est pas facile. Et bon, il fallait y aller, hein. On était avec plusieurs de mes camarades de promo à attendre ce fameux jour et à arriver en réanimation. Et c'est vrai que bon, ça m'effraie toujours autant, hein. Je
C'est
vais pas te
vrai.
mentir. Mais il fallait y aller. Donc après, il faut savoir qu'on a 2 mois de doublure dans ces services. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas trop, en fait, quand on commence à travailler en tant qu'infirmière, on n'est pas lâché tout de suite. On suit une infirmière un peu plus expérimentée qui nous explique un petit peu le fonctionnement du service et qui va nous chapeauter en fait pour qu'on puisse être autonome. Donc ces 2 mois de doublure, ça me rassurait quand même. Je me suis dit, bon, tu vas avoir 2 mois pour comprendre comment ça fonctionne et pour appréhender aussi les soins aux patients intubés ventilés, parce que ça, je n'en avais jamais vu. C'est ce qui
C'est
manquait
vrai.
à ma formation.
Même en soins intensifs, du coup.
Non, les patients qui sont donc intubés ventilés, qui nécessitent une assistance respiratoire, sont dans les services de réanimation, en tout cas dans mon hôpital.
Oui,
Sont
mais
pas...
c'est un peu en France, en tout cas, c'est un peu la limite. Voilà, quand on a
Voilà,
besoin d'être,
complètement.
voilà, intubé, ventilé, ou alors pour une très courte durée, éventuellement, on peut rester en soins intensifs, mais sinon, on atterrit assez vite en réanimation.
Ouais, complètement, parce qu'en général, il n'y a plus de médecins anesthésistes dans les services de soins intensifs, dans les hôpitaux chez nous. Donc
C'est ça.
voilà, j'avais cette spécificité que je n'avais jamais vue et que je ne connaissais pas. Bah, j'étais très stressée, mais j'avais hâte en même temps. Donc le premier jour, c'était un petit peu un jour d'observation, hein, on ne faisait pas grand-chose. Et là, quand je suis rentrée dans ces chambres de réanimation, quand on m'a fait faire le tour du service, c'était la décomposition. Je me suis dit, mais je pourrais jamais en fait, c'est trop compliqué. Il y a des fils partout, ça sonne dans tous les sens, tout le monde court partout. Sur le coup, grosse remise en question. Je me suis dit, c'est pas possible en fait, tu vas jamais y arriver, tu connais rien, tu sors de l'école. Sachant que dans la réanimation au CHU de Limoges, donc c'est une réanimation polyvalente, ça veut dire qu'on fait autant de la médecine et de la chirurgie et on a toutes les spécialités. Alors c'est ce qui m'intéressait, hein, parce que je voulais pas m'enfermer dans une spécialité, je voulais vraiment apprendre plein de choses. Mais quand on sort de l'école, c'est un petit peu déroutant. On se dit, mais comment on va faire pour passer du patient qui sort de chirurgie digestive au patient qui a une infection généralisée? On se dit, mais
Ah ouais,
je...
c'est sacré, sacré domaine de compétences.
Ah oui, complètement.
Ouais. Et tu parlais de cette impression, alors je pense que tout le monde passe par là, mais partons du principe qu'un humain a cinq sens, quand vous rentrez en réanimation, je pense que on peut décrire ça aussi pour quelqu'un qui vient rendre visite à un patient aussi en réanimation, tous les sens sont occupés, ça clignote dans tous les sens. Il y a beaucoup, beaucoup de petits bips, de choses sonores, voilà, de tous les côtés. Visuellement, beaucoup de fils, beaucoup de câbles, beaucoup de tuyaux. Alors après, on sait exactement à quoi sert chaque fil et chaque tuyau. C'est difficile à dire. À quoi sert chaque fil et chaque tuyau? Donc, voilà, avec l'expérience, les choses deviennent plus simples. Mais c'est vrai que c'est hyper, hyper impressionnant quand on met le pied en réanimation pour la première fois.
assez effrayant. Et puis le monde aussi, parce qu'il y a quand même un nombre de personnel assez conséquent. En réanimation, on a la chance d'avoir toujours les docteurs, que ce soit les internes ou les chefs, les seniors. Et c'est vrai que quand on arrive, de voir toutes ces blouses blanches, toutes ces personnes, c'est hyper impressionnant. Enfin, quand on fait la visite le matin, on peut être 5, 6, jusqu'à 10 autour du malade. Donc, ça a quand même un côté vraiment impressionnant. Quand on arrive, on se dit comment je vais faire pour trouver ma place dans ces équipes qui sont très soudées, qui ont un milliard de connaissances. C'est vrai que ça fait peur.
Et puis, il y a du... Ce sont donc, comme tu dis, des équipes qui sont formées, qui sont là depuis longtemps. Donc il y a plein de choses qui s'orchestrent et qui se mettent en place presque sans que les gens parlent. Il y a des choses qui se font complètement automatiquement, puis il faut réussir à rentrer dans le flux comme ça, c'est un peu difficile. Donc toi, pendant ces quelques semaines de doublure, t'arrives quand même à réaliser déjà quelques soins, t'es dans quel état d'esprit à ce moment-là?
Oui, très vite. Bon, c'est vrai que le premier jour, c'est de l'observation, mais ensuite, très vite, ben, on nous met en condition. On va nous donner, dans un premier temps, un patient en charge pour qu'on arrive à comprendre un petit peu comment se déroule la journée, la façon de faire les soins, la façon de s'organiser. Et puis, très vite, au final, ça se passe bien. Je suis contente d'être là. C'est difficile, mais j'apprends tous les jours et les équipes sont quand même chouettes, à l'écoute, que ce soit la cadre, les infirmiers, les aides-soignants. Tout le monde est là pour favoriser un petit peu l'intégration des nouveaux arrivés. Donc, ça se passe bien. Très vite, je vois la fin de ma doublure arriver et je me dis, oh là là, ça y est, je vais être l'infirmière responsable. Parce que c'est une période assez particulière quand même, la doublure. Hein. On est professionnel, mais on n'est pas responsable encore de nos patients. Donc, on n'a pas cette pression qu'on peut avoir quand on est tout seul à se dire, bah, mince, ça y est, j'ai fermé la porte du service, je suis responsable de ce que j'ai fait. Donc voilà, ces 2 mois de formation étaient quand même très bien et m'ont permis tout doucement de comprendre que ça y est, j'étais infirmière et plus étudiante. Et puis on a eu une grande période de cours aussi, on a eu la chance d'être très bien accompagnée quand même à l'arrivée en réanimation. On a eu des cours médicaux et des cours paramédicaux pour compléter un petit peu les cours qu'on avait à l'école, parce que c'est vrai qu'on n'apprend pas à la réanimation à l'école.
Ouais. Donc, c'est survolé, quoi, mais il n'y a pas le temps, hein, sur 3 ans d'études d'aller en profondeur. Hein. Et ces cours sont fournis par l'hôpital dans lequel tu travailles?
Ah, complètement. Il y a donc des jours de ma doublure où j'allais en service, où j'étais en poste de soir, de matin ou de nuit. Et il y a d'autres jours où j'étais en poste de journée avec les autres personnes qui étaient arrivées en même temps que moi. Et on a eu donc des cours de la part des infirmiers pour nous expliquer certains soins qu'on ne voyait pas dans d'autres services et qu'on n'avait jamais vus auparavant. Et également des cours de la part des médecins sur tout ce qui était ventilation, par exemple. Donc avec les paramètres des respirateurs et sur plein d'autres thématiques, mais abordées par un médecin. Donc c'était vraiment chouette d'avoir ces bases.
C'est génial. Ouais. Alors par exemple, les respirateurs, si on peut donner un exemple. Donc le respirateur, c'est une sorte de... Ce sont des poumons artificiels, on peut dire ça comme ça, pour faire respirer les patients qui sont dans un coma pour une raison X ou Y. Et par exemple, sur ces respirateurs, il y a plusieurs modes de ventilation.
Oui, tout à fait.
Ça, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas ou très peu abordé à l'école d'infirmière.
Ah, même pas du tout. Moi, j'avais jamais entendu parler d'un respirateur et j'en avais jamais vu avant de mettre les pieds en réanimation.
Alors, il y a plein de... Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'en effet, il faudrait un cours entier. Mais il y a plein de réglages. Voilà, le volume qu'on donne aux patients. Alors que vous soyez un homme de 60 ans, d'1m60, ou une femme de 30 ans, d'1m80, voilà, on ne va pas vous injecter le même volume d'air. Il y a des mélanges, voilà, de l'oxygène d'une certaine quantité. Et puis, on part du principe qu'on veut que les poumons soient vidés après l'expiration ou pas, qu'on garde une pression positive ou pas. Voilà, c'est une grosse partie de la réanimation, mais ça vaut le coup d'y passer du temps. Et je trouve ça génial que vous ayez... Enfin, moi, tu vois, j'ai jamais entendu quelqu'un qui m'avait dit avoir des cours comme ça. C'est génial.
Non, franchement, là-dessus, j'ai rien à dire. Hein. On nous a vraiment donné toutes les cartes en main pour que ça se passe bien, en tout cas.
Super.
Alors après, il fallait quand même fournir un travail personnel assez conséquent à côté, hein, parce que il y a des médicaments que j'avais jamais manipulés, donc... Voilà, il fallait quand même un peu de travail pour avoir toutes les connaissances et puis pour aborder mes journées de travail un peu plus sereinement, on va dire.
Bien sûr, bien sûr. Et une fois en poste à 100%, du coup, tu te retrouves avec combien de patients en charge ?
Alors, quand on est en poste du matin, parce qu'il faut savoir que dans la réanimation où je travaille, on est une des rares réanimations à ne pas travailler en 12 heures. On travaille en 7h45. Donc, on est soit du poste du matin, soit du soir ou soit de nuit.
Très bien.
On est sur un roulement où on tourne, on fait entre 3 à 4 nuits par mois. Donc, quand on est du matin, on a deux patients, parce que le matin, c'est quand même là où il y a le plus de soins. On fait tout ce qui va être soins de nursing, donc d'hygiène, de confort. Et puis après, il va y avoir les pansements, il va y avoir toutes les perfusions à repréparer, les seringues. Donc, deux patients le matin. Ça peut aller jusqu'à trois quand il manque du personnel. Et quand on est en poste du soir ou de nuit, on a quatre patients à charge.
D'accord. Parce qu'en effet, voilà, moins de soins, déjà, il n'y a plus les toilettes à faire. Les pansements, normalement, ont déjà été faits le matin, donc on peut se permettre d'avoir un peu plus de patients.
Oui.
Oh, voilà. C'est quand même énorme, 4. Hein.
4, c'est vrai que c'est énorme. Quand tout va bien, qu'ils sont stables, dans le meilleur des mondes, ça va. Mais voilà. En réanimation, il y a toujours des imprévus. Hein. C'est le cœur de métier, j'ai envie de dire. Donc, il suffit qu'on fasse une entrée ou qu'il y ait une urgence... Et ben, ça met un petit peu le bazar dans l'organisation.
C'est vrai. Il y a quelque chose dont je voulais qu'on parle, c'est le fameux binôme infirmier-aide-soignant, qui je trouve est une très belle chose. Je trouve que c'est quelque chose d'incroyable. C'est vraiment allier ses connaissances et sa pratique au quotidien au service des patients. Je crois savoir qu'en réanimation, ça se passe de cette façon aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Alors oui, on travaille tout le temps en binôme avec une aide-soignante. Il faut savoir que l'aide-soignante a toujours quatre patients à charge. Donc, quand on est du matin, par exemple, l'aide-soignante, elle va collaborer avec deux infirmières, vu que l'infirmière a deux patients en charge. Pour tout ce qui va être soins de nursing, on les fait en binôme, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'on ne peut pas se permettre de tourner un patient qui est intubé, ventilé, tout seul. C'est pas possible, c'est pas envisageable. Et de toute façon, il y a tellement de fils, il y a tellement de matériel qu'il faut qu'on soit deux. Donc voilà, on fait énormément de soins ensemble et j'ai envie de dire l'aide-soignante en réanimation c'est les yeux de l'infirmière parce que l'infirmière elle peut pas être partout et l'aide-soignante elle passe quand même beaucoup de temps aussi auprès des patients donc elle va nous alerter s'il y a un problème et en général je travaille quand même avec des aides-soignantes qui ont pas mal d'années d'expérience donc elles m'en apprennent beaucoup aussi tous les jours et on échange ensemble sur les patients elles vont m'avertir s'il y a un problème. C'est vrai que bah, c'est nos yeux. Hein. C'est hyper confortable de pouvoir tout le temps travailler avec son aide-soignante. C'est pas comme dans un service conventionnel où l'aide-soignante va partir faire son tour d'un côté, l'infirmière de l'autre. Là, on fait quasiment tout ensemble. Donc, c'est super.
Je renvoie les auditeurs vers... l'épisode 14 avec Mélanie, c'est un petit soleil qui est aide-soignante en réanimation, c'est un épisode qui était vraiment passionnant si vous voulez en savoir plus sur voilà, le métier d'aide-soignante en réanimation. Et puis plus récemment l'épisode 37 avec Sandra qui entre autres nous a raconté plein de choses mais aussi une partie de son métier en réanimation et oui, voilà, ce binôme, moi je trouve que c'est quelque chose de précieux et qu'en effet on retrouve pas dans beaucoup beaucoup de services. Et quand tu dis que les aides-soignants sont les yeux des infirmiers, bah oui, parce qu'en fait, l'infirmier bah, ne peut pas être partout. Et avec l'expérience, ils ont un regard sur beaucoup, beaucoup de choses qui est vraiment, vraiment précieux, c'est vrai. Alors, je voulais revenir sur ce surnom de cow-boy dont tu parlais dans ton mail.
Mais en parler.
Écoute, c'est parce que je trouve que c'est hyper intéressant et peut-être que ça parle pas à tout le monde. Donc voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
En fait, moi, avant d'atterrir en réanimation, étant passée dans plusieurs services de soins intensifs, quand les patients commencent à devenir limites ou qu'ils vont décompenser et nécessiter l'appel d'un réanimateur parce que ben, on s'en sort plus, hein, on n'a plus les moyens, les compétences de s'occuper du patient, on voit débarquer ces équipes de réanimation dans les étages avec leur sac à dos qui, par ailleurs, pèse je ne sais combien de kilos pour la
version.
Et tout de suite, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Le médecin qui arrive, l'interne, l'infirmier, avec tout ce matériel, ils se comprennent en un regard, et puis, tac, 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 ils intubent le patient s'il a besoin de l'intuber, ils posent les cathéters, et ensuite, transport en réanimation. Sur le coup, quand on ne connaît pas, on se dit, mais oh là là, ça sort d'où ça ? Et je sais pas, c'est vrai que dans mon hôpital, souvent, on entend ce surnom-là. Les services conventionnels appellent le personnel de réanimation les cow-boys. C'est un surnom qui reste et qui me fait un petit peu rire.
Non, mais je suis d'accord. C'est-à-dire qu'un patient, en effet, qui devient instable pour une raison X ou Y en service et qui sera transféré en réanimation, on ne l'amène pas avec son lit en réanimation en disant « il se sent pas très bien, on vous le laisse ».
Ah, pas du tout.
Voilà, c'est l'équipe de réanimation qui se déplace. Alors, il y a plein d'exceptions, mais voilà, principalement, c'est l'équipe qui se déplace.
Voilà, exactement. Ça m'arrive. Enfin, moi, ça m'est arrivé quand même très peu d'aller chercher des patients parce que bon, j'ai qu'un an d'expérience, mais des fois, on reçoit un appel du médecin qui nous dit bon, ben voilà, ce patient, il est limite dans ce service, ça va pas. Il faut qu'on la ramène chez nous parce que ça va pas le faire dans les étages. Et c'est vrai que ben, je pense que ça peut avoir ce côté frustrant pour le personnel de soins conventionnels de se dire ben mince, nous, on arrive à nos limites, on peut plus s'en occuper, donc on est obligé de faire appel au personnel de réanimation. Et c'est ce qui participe un petit peu à notre mauvaise réputation, j'ai envie de dire, dans l'hôpital. On n'est pas très apprécié en général la réanimation.
Et s'il y a un petit peu d'affect qui est là-dedans, il y a des personnes aussi qui peuvent se sentir frustrées de ne pas avoir réussi à prendre en charge un patient jusqu'à la fin. Oui. En fait, la réanimation, c'est la dernière solution pour que les choses aillent mieux. Et ça peut être mal vécu, je l'ai vu de mes yeux, par des soignants qui nous voient arriver, voilà, comme tu disais, comme des cow-boys. En fait, on n'est pas du tout en train de juger que le travail a été mal fait en service.
Tout,
ça n'a rien
tout.
À voir. Mmh. C'est juste que, ne serait-ce que la localisation du patient derrière une porte fermée dans une chambre, on ne peut pas surveiller comme il faut, on ne peut pas scoper, plein de choses. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et que, voilà, il est parfois nécessaire de transporter le patient en réanimation pour des soins aigus, plus rapprochés. Ça ne remet absolument pas en cause le travail qui a été fait dans les services avant, mais pour certaines équipes, ça peut être un peu mal vécu, surtout que, voilà, les équipes de réanimation rentrent dans les chambres, bah, on n'est pas là pour boire le thé, hein, donc clairement...
Ah voilà, exactement.
On se bouge.
On y va, on a un objectif, c'est ramener le patient, on croise les doigts pour que ça aille bien jusque chez nous, parce que des fois, les services sont quand même assez loin de la réanimation.
C'est sûr.
Donc on se dit, s'il arrive quelque chose sur le trajet, donc non, on ne boit pas le thé, on y va, on fait au plus vite, et puis... on finira le travail chez nous.
C'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a un a priori dont souffre ton service que tu souhaiterais balayer? Quelque chose que tu entends qui t'agace ou, voilà,
alors,
la parole est à toi.
Alors, ce que j'entends souvent, c'est de toute façon, en réanimation, il n'y a pas de relationnel.
Ah.
Ça, j'ai tendance à souvent l'entendre. Alors après, peut-être que les gens... parle sans connaître et sans savoir, hein. Donc je remets pas du tout en cause leur jugement, mais il faut savoir qu'aujourd'hui en réanimation, ça a énormément évolué. On va avoir 90 à 95% de nos patients qui sont conscients, même intubés, ventilés. Et ça, le grand public ne le sait pas. Tout le monde pense que les gens sont inconscients chez nous, qui ne parlent pas, qui bougent pas, alors qu'en fait, on a fait énormément de progrès et l'objectif aujourd'hui, c'est de laisser les patients intubés le moins longtemps. Donc on les réveille très vite. Et franchement, si on n'a pas de relationnel avec un patient qui est attaché dans son lit avec un tuyau pour respirer, je ne vois pas comment on peut s'en sortir.
Mais c'est sûr.
Donc en fait, il y a un relationnel énorme en réanimation.
Alors oui, donc ça, c'est quelque chose que le grand public ne sait pas forcément, mais en effet, on peut être intubé, donc voilà, avoir ce tube qui descend dans la trachée, être ventilé par la fameuse machine dont on parlait juste avant, et être conscient.
Ah, complètement, c'est la majeure partie de mes patients.
Pour la communication, comment ça se déroule?
Alors, on va avoir des oui, non de la tête. Si le patient est plutôt stable et arrive à se servir de ses mains, on va avoir un système d'ardoise. Et puis, par le regard, on arrive quand même à faire passer quand même pas mal de messages. Mais c'est vrai que c'est terrible pour les gens. En général, ils sont endormis quelques jours, le temps de passer le cap, j'ai envie de dire. Et puis après, on va être obligé d'arrêter les sédations pour pouvoir, d'une part, les tester, pour voir s'ils ont perdu des capacités au niveau moteur, au niveau de leurs bras, de leurs jambes, pour tester leur sensibilité. Et de se réveiller comme ça dans un lit avec plein de tuyaux, plein de personnes et les mains attachées, parce qu'on ne peut pas prendre le risque que le patient s'auto-extube, ce serait dramatique pour lui. Donc, on est obligé de faire preuve d'un relationnel qui est énorme pour pouvoir rassurer les patients, pour pouvoir les accompagner jusqu'à ce qu'on enlève ce fameux tuyau.
D'autant plus, voilà, parce que la situation pour eux, parfois, ils se réveillent dans ces services-là, ils n'ont aucun souvenir de ce qui s'est passé juste avant. Donc,
ça arrive, oui. Donc, il faut tout leur expliquer. Et puis, il y a la famille aussi en réanimation. Donc, il faut quand même avoir un sens du relationnel... assez développé parce que les familles vivent des drames qui n'étaient pas prévus, donc il faut pouvoir les accompagner et Voilà. C'est compliqué quand on sort de l'école, ça, qu'on n'a pas trop de recul. Hein.
J'imagine. Et puis, il faut réussir à vulgariser aussi ce qui arrive aux patients, expliquer à la famille, voilà, vous voyez, tel fil, tel médicament, je vais vous expliquer à quoi ça sert, etc. Il faut réussir à trouver les bons mots.
Exactement, parce que pour la majeure partie des gens, c'est la première fois qu'ils rentrent dans un service de réanimation. Donc, moi, c'est toujours la question que je leur pose, c'est est-ce que vous êtes déjà rentré en service de réanimation ? Et quand on me dit non, j'essaie de reprendre un petit peu, ben voilà, c'est pas une chambre conventionnelle, il y a beaucoup de matériel, il y a du bruit, il y a tout le temps du monde. Il suffit que ça sonne dans la chambre, vous allez nous voir débarquer assez rapidement. Voilà, il faut reposer le cadre et essayer de vulgariser un petit peu ce qui arrive aux patients. Donc voilà, on essaie d'accompagner les familles au mieux.
Et les fameuses petites sonneries, ça bip un peu de partout pour mille raisons. Moi, j'ai des souvenirs de familles qui disent oh, « ça sonne ». Oui, mais alors, nous, on sait pourquoi ça sonne, mais oui. Il faut pouvoir leur expliquer. C'est pas parce que ça sonne que vous allez voir quelqu'un rentrer dans la chambre immédiatement.
Voilà, c'est pas parce que ça sonne que c'est grave.
Exactement. Ouais, il y a plein de paramètres. Ça, faut réussir à l'expliquer aussi. Les gens voient ça comme une alarme à raison, hein, parce qu'après tout, si ça sonne, c'est parce qu'il faut que le regard se pose sur ce qui sonne au moment où ça sonne. Mais il faut savoir expliquer... en détail ce qui leur arrive.
Ah, mais c'est vrai qu'on est quand même très présent pour les familles et alors je ne sais pas si ça se fait partout, mais en tout cas chez nous c'est la règle. Quand le médecin explique à la famille donc, ce qui se passe, on a une petite salle exprès où le médecin va installer la famille et l'infirmière qui s'occupe du patient est toujours présente. Ah, donc en fait, le suivi se fait de A à Z. Donc voilà, l'infirmière est là pour réexpliquer aux besoins, pour soutenir les familles. Et puis comme ça, nous, on est au courant exactement de ce que le médecin dit aux familles. Parce que parfois, c'est trop compliqué de donner toutes les informations en une fois. Donc voilà, c'est bien que l'infirmier soit présent pour suivre un petit peu l'évolution des choses, que ce soit au niveau du patient et également de sa famille.
Ouais, complètement. Donc là, ça fait un tout petit peu plus d'un an, du coup, si je ne me trompe pas. Que oui. Tu travailles en réanimation avec donc cette petite année de recul, est-ce que tu as des regrets sur le choix que tu as fait ?
Alors j'ai aucun regret parce que je pense que si je l'avais pas fait en sortie d'école, je sais pas si j'aurais osé me lancer un peu plus tard parce que je pense que c'est un service, il faut s'y jeter. Il faut passer outre les appréhensions et il faut s'y jeter. Et l'avantage quand on arrive en réanimation sans expérience, c'est que on est malléable, si j'ai envie de dire. Donc, on va s'adapter et puis on va apprendre une façon de travailler qui est quand même bien particulière. Parce que je pense que quand on vient de soins conventionnels, on a une façon de travailler et c'est peut-être un petit peu plus difficile de s'adapter à cette nouvelle façon de travailler. Alors, je pense que c'est tout à fait possible. J'ai des collègues qui l'ont fait. Hein. Mais ça a cet avantage-là, on est tout neuf. Donc, même aux yeux du personnel qui est déjà en poste depuis des années et des médecins, bah, ils peuvent nous former, en fait... comme ils veulent et comme les objectifs du service le demandent.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est un peu le... Alors, moi, je n'ai jamais exercé en réanimation, mais les soins intensifs, pareil, ça peut être un service qui est frais. Et c'est vraiment le message que je voudrais faire passer ici. Quand on est jeune diplômé, on a peur de ces services en se disant je suis peut-être trop jeune. On peut aussi nous le faire ressentir pendant les entretiens d'embauche. Donc, je suis heureuse d'entendre que pour toi, ça n'a pas été le cas. Mais en effet, on est malléable. Deuxièmement, quand vous êtes jeune, vous avez des capacités intellectuelles qui sont au top du top. Enfin, vraiment, moi je le vois avec le temps. Hein. Quand t'as 35, 40, 45, 50 ans, c'est plus difficile d'apprendre des choses. Vraiment, je trouve qu'on perd en capacité de concentration. Là, tu sors voilà, du lycée, des études. Toi, t'avais fait la première année de médecine, donc t'es dans une sorte de ronron. Les apprentissages se font facilement. Moi, je pense qu'il faut profiter de cette période-là pour aller dans des services challengeants comme celui-là.
Complètement. Et puis, ce qui est rassurant, c'est qu'on a toujours les médecins sous la main. Donc, ça, c'est quand même un confort qui est incroyable. Enfin, deux jours, deux nuits, vous avez toujours quelqu'un, que ce soit dans le service ou au bout du fil. On vous répondra toujours. Vous n'êtes pas seul. Vous avez toujours une collègue qui n'est pas très loin de vous non plus parce qu'on est plus nombreux qu'en service conventionnel. Donc, au final, il y a quand même des côtés un petit peu rassurants. Et puis, on a peu de patients. Donc... je pense qu'il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Après, si ça ne convient pas, ça ne convient pas. Et on n'est pas figé, c'est la beauté de notre métier, on peut travailler partout. Donc, mais je pense que pour ceux qui ont peur, il faut pas hésiter, il faut se lancer parce qu'on apprend tellement de choses, on voit tellement de choses. En un an, j'ai vu énormément de choses. Donc, je ne pense pas que j'aurais vu autant de choses si j'avais exercé dans un autre secteur.
C'est sûr. Bon, alors, un message voilà, d'espoir, de motivation pour les jeunes diplômés qui nous écoutent et qui hésitent à aller dans des services pointus comme celui-ci. Donc, voilà, vous avez l'expérience de Mathilde qui vous dit qu'il faut le faire, il faut foncer.
Mais il faut s'accrocher, parce que c'est pas facile tous les jours. Hein.
Ouais, ouais, c'est sûr. Quelles difficultés tu rencontres maintenant au quotidien ?
J'ai l'impression que ça me prend une partie de mon cerveau incroyable. Je fais écho à une vidéo, je crois, que tu avais faite où tu disais depuis que tu as arrêté ton job d'infirmière que tu avais retrouvé la moitié de ton cerveau. Mais c'est tellement vrai, je pense, parce que ça nous prend mais une place incroyable dans le cerveau. On a l'impression qu'on a la place pour rien d'autre, en fait.
Et quand on ferme la porte du service, on ne se déleste pas de cette charge instantanément, on ne la retrouve pas le lendemain quand on revient au travail.
C'est exactement ça. Et le bruit aussi, la pollution sonore. Non, mais dans ces services, c'est quand même un réel problème, que ce soit pour le personnel ou pour même les patients. Il y a tout le temps du bruit, ça sonne tout le temps. C'est-à-dire que vous rentrez chez vous, vous entendez encore les scopes qui sonnent.
C'est vrai, tu sais que c'est tout à fait vrai. Oh. Moi, j'ai eu cette expérience-là deux fois. Alors bon, alors les soins intensifs, voilà, j'entendais les bips. Ça m'arrive même encore récemment, hein, de me dire « Ah, ça sonne exactement comme au travail ». Et j'avais fait un stage en maternité et j'entendais les bébés pleurer en rentrant à la maison. Pourtant, le stage n'a pas duré très longtemps, mais vraiment quand c'est un son très répétitif comme ça. Bon, bref, mais oui, ça pompe de l'énergie aussi, tous ces désagréments sonores, visuels, etc. C'est vrai.
Tout ça, et puis tout ce qui est la traçabilité. Alors ça, c'est pas uniquement en réanimation, hein, c'est dans tous les services, mais pareil, on rentre à la maison, on se dit « mince, j'ai oublié de noter ça, j'ai oublié de tracer tel et tel soin ». Et aujourd'hui, les gens sont tellement procéduriers qu'on a une pression qui est monstre sur la traçabilité des soins. Et c'est vrai que des fois, on rentre à la maison, on se dit « mince, j'ai pas fait ça ». Il faut réussir quand même à se détacher un petit peu, parce que sinon, ça prend tellement de place, on n'y arrive plus, quoi.
Et puis tout le travail invisible, voilà, tu parles de la traçabilité, mais c'est tout ce que voilà, les patients, les familles ne voient pas, et qui prend beaucoup de place aussi. Alors maintenant, on va se tourner vers l'avenir. Moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce que t'envisages pour la suite. Alors, t'as peut-être pas forcément de réponse à me donner, mais tu as l'air d'être heureuse dans ce service. Comment tu vois les choses après ?
Alors moi, j'ai fait l'école d'infirmière aussi pour me tourner vers le métier d'infirmière anesthésiste.
D'accord.
Donc voilà, d'où les urgences et la réanimation pour commencer ma carrière. Donc je vais me laisser encore un petit peu de temps parce que j'ai encore énormément de choses à apprendre en réanimation, mais j'aimerais quand même dans un avenir proche passer le concours et faire l'école d'infirmière anesthésiste.
Donc c'est une formation supplémentaire ?
Exactement, en 2 ans, sauf que pour pouvoir passer le concours, il nous faut 2 ans d'expérience à temps plein. Mais je pense que 2 ans, c'est un petit peu juste quand même. Pour pouvoir aller à l'école, il faut quand même avoir un bagage solide. Donc voilà, c'est la suite.
Est-ce que tu peux nous dire dans quel secteur exerce l'infirmier anesthésiste justement ?
Alors, l'infirmier anesthésiste, il exerce principalement au bloc opératoire. Hein. Il assiste le médecin anesthésiste pendant toute la durée de l'intervention. Il peut exercer aussi au sein des SAMU pour apporter de l'aide aux patients en situation d'urgence. Et parfois, dans certains hôpitaux, un petit peu en réanimation, un petit peu aux urgences, mais c'est quand même un peu plus rare.
Bon, moi, je te souhaite que ça, Mathilde, hein, que tous tes projets se réalisent. Mais en tout cas, tu es au bon endroit pour envisager...
C'est ce que je me dis. Je crois que la réanimation, c'est quand même un des services privilégiés pour passer le concours, parce que voilà, tout ce qui est anesthésie, sédation, c'est mon quotidien. Donc, c'est déjà des bases que je vais continuer d'acquérir au fil des années. Mais,
Tu viendras nous re-raconter ça, tu vois, à chaque fois je le dis. Mais moi, quand il y a des gens qui ont des envies soit de reconversion, soit de formation complémentaire, moi, j'ai envie de dire, on se retrouve dans quelques années, on en discute.
Sachant que c'est un métier qui est très mal connu aussi du grand public en général. Les gens ne connaissent même pas ce métier. Et puis, ceux qui connaissent, ils se disent, oui, bon, elle est là pendant la durée de l'intervention, mais elle ne fait pas grand-chose, elle reste sur son tabouret.
C'est un métier très technique.
Alors que c'est très technique. Il se passe un milliard de choses quand les gens sont au bloc opératoire.
Et puis on n'endort pas quelqu'un en claquant des doigts, c'est...
Non.
C'est moi, tu vois, quand je disais je suis infirmière en salle de réveil, on me disait « Oh, ça va, tranquille. » Oui, mais moi, je n'attends pas juste que les gens ouvrent les yeux. Hein. Si c'était que ça, ça serait facile quand même. Non, c'est tout ce qui est pendant l'intervention, autour de l'intervention, autour de l'anesthésie, c'est très compliqué.
Ah, puis c'est passionnant, ça nous arrive quand même assez régulièrement d'endormir les patients pour pouvoir les intuber, et c'est des actes que j'adore faire, je trouve ça passionnant. Enfin, les sédations, on les curarise, on les intube, enfin, c'est... Ouais. Bon, c'est pas chouette pour les gens, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais tout le travail technique qu'il y a autour est réellement passionnant.
Ouais. Oui, parce qu'il faut savoir que, alors, on va vraiment parler de ça dans les grandes lignes, mais pour endormir quelqu'un, on ne claque pas des doigts, on n'injecte pas un médicament qui fait dormir. Non. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Tu parlais des curares, voilà, qui viennent paralyser les muscles pour permettre une détente complète du patient pour pouvoir passer cette fameuse sonde d'intubation. Si on paralyse les muscles, on paralyse également les muscles respiratoires, ce qui implique que derrière, le patient devra être ventilé avec une machine.
Voilà, et ce qui fait vraiment la difficulté en réanimation, c'est que vu que on endort les gens de façon aiguë, c'est pas du tout préparé, c'est pas comme avant une intervention où on va vous préoxygéner pendant un certain nombre de minutes pour laisser le temps au médecin de vous intuber. En réanimation, souvent, les patients sont déjà en détresse respiratoire, donc il faut aller très très vite. Donc, c'est vraiment en 2 minutes, vous pouvez être intubé, hein, en situation d'extrême urgence, comme on l'a fait par exemple avec les Covid. 2 minutes, 2-3 minutes, ça y est. Hein.
Et ne vous inquiétez pas, les gens sont formés pour ça.
Ah, complètement. Voilà. Même les nouveaux, même les infirmiers avec un an d'expérience savent gérer, j'ai envie de dire, ce genre de situation.
C'est ça. Et il y a des plateaux d'intubation tout prêts avec le matériel en quantité, avec les bons diamètres de sonde, les bonnes longueurs de sonde, etc.
Ah là, vous avez un organigramme dans votre tête. Hein. C'est tac, 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 tac.
Ouais.
Non, je me le répète assez souvent, d'ailleurs, ça fait un petit moment que j'ai pas intubé, donc des fois je me dis, mince, si je dois intuber en urgence, qu'est-ce que je fais? J'essaie de me refaire le fil.
Mais je suis sûre que ça, même les aides-soignants doivent pouvoir préparer un plateau d'intubation.
Ah, on compte aussi sur nos aides-soignants pour tout ça. Hein. Elles savent préparer des chariots, par exemple, pour pouvoir poser des cathéters, pour intuber un patient. Enfin, des fois, vous n'avez même pas besoin de demander, vous vous retournez, le chariot est prêt.
Ouais, c'est ça qui est beau dans ces services hein, aussi. Hein.
Ouais, il y a beaucoup d'entraide.
Toute la communication invisible, les choses qui sont même à peine suggérées, elles sont déjà faites. C'est comme un... Moi, j'ai l'impression que je regarde un orchestre des fois, mais c'est fascinant. Bon, bah super, Mathilde. Bah écoute, trop bien. Je te souhaite que ça se déroule comme tu as envie que ça se déroule, mais il n'y a pas de raison. On va finir par le petit portrait chinois avec voilà, les petites questions pour te connaître encore un petit peu plus. Je réalise que ma première question, c'est que dirais-tu à la Mathilde d'il y a 10 ans? Mais bon, du coup, il y a 10 ans, t'étais pas bien vieille, Mathilde, alors.
Il y a 10 ans, j'avais 12 ans. Donc,
voilà. Non, mais qu'est-ce que tu dirais tu vois, peut-être à la Mathilde au lycée ou peut-être en première année de médecine, par exemple?
Oh, je lui dirais de continuer à croire en ses rêves et de rien lâcher parce que ce qui l'attend est quand même merveilleux.
Ah, trop bien. Question suivante, plutôt cantine ou lunchbox?
Oh, lunchbox, sans hésitation.
Bah, alors du coup, vu que t'aimes la cuisine, voilà, tu t'éclates.
Ah oui, puis la nourriture de l'hôpital, on y passe déjà assez de temps, donc non.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Qu'est-ce que tu as appris pendant l'exercice de ta profession et que tu n'avais pas appris pendant tes études?
C'est une question que je trouve compliquée, ça.
Ouais, c'est vrai. Oh, bah, surtout avec un an d'exercice, elle n'est pas sympa. Hein.
Non, c'est pas simple du tout. Je dirais quand même le relationnel, parce qu'à l'école, on a beau faire des petits jeux, des petites scénettes pour se mettre en situation, mais quand vous annoncez à une famille que leur proche va décéder, ou est très malade, qu'il aura des séquelles irréversibles, c'est compliqué à gérer, surtout quand on est jeune, on n'a pas trop de recul, il faut pouvoir encaisser tout ça, et ça, on nous apprend pas, à le gérer à l'école, donc il faut faire face comme on peut, et essayer de soutenir la famille sans pleurer avec eux.
C'est sûr, trouver donc, la bonne distance, ouais.
Je dirais vraiment le relationnel.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Question suivante, donc sans transition, la chanson qui te booste quand tu as un coup de mou?
Alors peut-être que certaines personnes vont se moquer de moi, mais j'aime beaucoup cette chanson. Je crois que ça s'appelle Boogie Wonderland. C'est la chanson dans Intouchable que Driss fait pour l'anniversaire. Je sais plus comment il s'appelle, mais du monsieur dont il s'occupe.
Très bien.
J'adore cette danse et j'adore cette chanson.
C'est Earth, Wind and Fire. J'adore cette chanson aussi. Ah bah comment veux-tu ne pas avoir la pêche une fois que t'as écouté ça?
Voilà, c'est ça rebooste.
Question suivante, la plus belle phrase qu'un patient t'ait dite?
C'est très simple, mais je crois que c'est merci. quand vous extubez un patient avec qui, que vous êtes occupé pendant plusieurs semaines, et quand vous lui enlevez le tuyau, vous lui redonnez la parole, et qu'il vous dit merci. Enfin, il n'y a besoin de rien de plus, ça suffit complètement. Enfin.
Oh là, la plus belle récompense.
Ah, franchement, j'adore faire ça, j'adore extuber les patients et entendre leur voix, parce que souvent, on ne les connaît pas d'avant.
C'est
donc, pouvoir échanger avec eux, c'est vraiment super.
Ah, oh, trop bien. Question suivante, ton meilleur fou rire au travail, parce que c'est pas parce qu'on travaille dans des services qui sont tendus, stressants, compliqués, tristes aussi, qu'on ne rigole pas parfois.
Ouais. Alors, mon meilleur fou rire, je crois qu'en fait, ça remonte à il y a plusieurs mois, on avait une patiente qui était intubée et que ma collègue avait extubé le jour même, donc c'est pas moi qui m'occupais de cette patiente. Et il faut savoir que quand les patients sont extubés, ils n'ont pas le droit de boire ni de manger dans les heures qui suivent l'extubation, parce qu'il y a quand même un risque de faire une fausse route qui est assez importante. Et puis, c'était l'heure des visites. Et la fille de cette dame qui avait été extubée lui ramène de l'eau de Lourdes pour tenter de la guérir, de la soigner. Et au moment où ma collègue rentre dans cette chambre, elle est en train de voir sa patiente boire la bouteille complète d'eau de Lourdes. Et là, sur le coup, on a explosé de rire. On s'est dit, mais non, mais c'est pas possible. Elle vient juste d'être extubée. En fait, l'eau de Lourdes, ça va la tuer. Ça va pas la guérir. Et je sais pas, on a été prise d'un fou rire. Ça nous a bien fait rire.
Là, clairement, l'eau de Lourdes ne fera pas de miracle aujourd'hui.
Non, bon, tout s'est très bien passé, hein, mais bon, mamie commençait à tousser un petit peu quand même, parce que...
Ah oui. Oh là là.
Et puis, je sais pas, oui, ça nous a fait rire.
Ah, il y a des situations comme ça. Bon, alors, tout est bien qui finit bien, donc pas de problème.
Oui, voilà, il n'y a pas de problème, c'est pour ça que je me permets de le raconter.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et la dernière question, un titre de film qui résume ta carrière?
Alors, c'est un film que j'ai vu il y a un petit moment, mais qui s'appelle « Tout là-haut ». C'est l'histoire d'un jeune qui veut gravir l'Everest. Et en fait, j'ai l'impression de continuer à gravir l'Everest depuis un an. Je ne suis pas encore au sommet, j'en suis très loin. Donc, je trouve que ça résume plutôt bien mon début de carrière.
Complètement. Oh, bah super, Mathilde. Bah, écoute, un grand merci pour tout ça.
De rien, merci à toi Marie-Hélène de m'avoir invitée sur ce podcast, c'est vraiment chouette.
C'est moi qui suis ravie parce que, tu vois, je reçois, c'est ce que je te disais en off, je reçois des personnes qui ont 20-25 ans d'expérience, qui ont travaillé dans des dizaines de services, mais c'est précieux d'avoir le témoignage de quelqu'un aussi, qui est tout jeune diplômé, en plus qui s'est lancé dans un service qui est très challengeant et on te sent à ta place et c'est un bonheur de t'écouter.
Merci.
Merci Mathilde, et puis bonne continuation, et promis, tu reviens nous raconter la suite s'il y a du changement dans les prochaines années.
Ah, il n'y a pas de souci, avec plaisir.
Merci Mathilde, à bientôt.
À bientôt.
Si vous êtes jeune diplômé et que vous hésitez à franchir la porte d'un service de réanimation, je suis certaine que Mathilde aura su vous convaincre d'y envisager une carrière. Merci pour vos nombreuses écoutes et pour ce superbe début de saison 3 du podcast. Je vous donne rendez-vous ici toutes les deux semaines pour un nouvel épisode. À bientôt.